Orient Press, Kamel Jaider.
Bonjour et bienvenue sur RFI pour cette nouvelle édition d'Orient Presse. Comme chaque samedi, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine au Proche et au Moyen-Orient en compagnie de trois confrères. Philippe Gély du quotidien Le Figaro, Marc Yared du mensuel Arabie et Denis Sieffert de l'hebdomadaire Politis.
Orient Presse sur RFI.
Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai d'abord retenu cette semaine l'Iran dans l'actualité. Finalement, Mahmoud Ahmadinejad, vous le savez sans doute, a obtenu le soutien du Parlement de Téhéran qui a approuvé 18 des 21 ministres proposés pour son nouveau gouvernement. C'est un soutien, il faut bien le dire, large puisque la plupart de ces ministres ont obtenu plus de 160 voix sur un total de 286 votants. Est-ce que cela vous surprend, Philippe Gély?
C'est un peu surprenant compte tenu des longs débats qui ont eu lieu au Parlement iranien et des interrogations qui ont été formulées, y compris par les conservateurs, sur la compétence de certains des ministres qu'avait choisi Ahmadinejad. On lui a reproché de mettre en avant leur fidélité plutôt que leur compétence. À l'arrivée, il est possible que les troubles qui ont suivi les élections aient finalement bénéficié à Ahmadinejad dans le sens où le régime se serre les coudes, resserre les rangs et donne au président iranien le gouvernement qu'il souhaitait, qui est une espèce d'équipe de combat.
Donc vous n'êtes pas surpris
On peut être surpris par les chiffres, le nombre de voix qu'ont obtenu un certain nombre de ministres.
Mais pour le scrutin, non.
Mais je crois que l'ayatollah Khamenei est intervenu auprès du Parlement pour leur faire comprendre que exprimer des doutes c'était bien, mais dresser des barricades c'était peut-être aller trop loin. Voilà, donc les choses rentrent dans le rang.
Marc Yared ?
Oui, moi je suis surpris, si je m'en tiens à la situation il y a une semaine. Donc au sein du Parlement iranien, ce qu'on en percevait en tout cas, on percevait, comme le dit mon confrère du Figaro, une très forte opposition de la part des députés. Je crois qu'un facteur important a pu jouer dans cette mutation, ce changement, ces résultats un peu surprenants. Cet appui au ministre proposé par Ahmadinejad, alors qu'il y avait une opposition évidente au départ. Et je crois que ce facteur, c'est les pressions extérieures qui ont été exercées à l'encontre donc du candidat proposé au ministère de la Défense. C'est-à-dire ce candidat qui est recherché par Interpol avec de fortes pressions internationales. On a eu un réflexe classique qu'on rencontre souvent dans la classe politique et au sein même de l'opinion publique iranienne, c'est-à-dire face à des pressions extérieures jugées menaçantes.
On serre les rangs.
On serre les rangs.
Denis Sieffert, vous êtes d'accord ?
Oui, j'avoue que je suis un peu surpris aussi parce qu'on avait au contraire l'impression que Ahmadinejad était de plus en plus lâché, y compris par certains de ses soutiens. Même Ali Khamenei avait commencé, semble-t-il, à prendre ses distances. Alors évidemment, ça ne dit rien du vote des députés, mais j'ai tendance à penser aussi qu'il y a une sorte de réflexe de rétractation, d'autodéfense face aux critiques extérieures, et notamment, effectivement, sur le personnage de Vahidi, qui est très très controversé. Et il y a eu également des débats, semble-t-il, quand même à l'intérieur, avec un autre personnage qui va être nommé, lui, à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, et qui a fait l'objet quand même de beaucoup de critiques. C'est celui qui, je crois, a été le moins bien élu. Enfin, bon an, mal an, c'est en effet une opération qui profite et qui conforte la position d'Ahmadinejad.
Oui, je rappelle que le plus spectaculaire a été ce vote massif en faveur du ministre de la Défense, là, Vahidi, dont vous parliez à l'instant, et contre lequel Interpol a lancé un avis de recherche pour son éventuelle implication dans un attentat en Argentine contre la communauté juive. Alors, on l'avait cru, le disait à l'instant Marc Yared, on avait cru que le président était en sérieuse difficulté il y a une semaine. Environ, comme s'il était pris en otage entre les conservateurs, les plus radicaux d'ailleurs, et les réformateurs. Et notamment à propos, faut-il le rappeler, de la candidature de trois femmes. Une d'entre elles a quand même obtenu la confiance des députés. Là aussi, vous êtes surpris, Philippe Gély ?
C'est une première, autant qu'on sache, en Iran. Les trois femmes proposées ont créé une polémique importante au Parlement iranien. Je pense que les deux camps sauvent un peu la face. Il y en a une qui passe, il y en a deux qui sont recalés. Je ne sais pas si ça aura vraiment un impact majeur sur la politique iranienne.
Marc Arendt, ça peut faire date, ça, cette femme
au
gouvernement.
En termes d'image, peut-être pas tellement de contenu. Je crois que c'est un beaucoup réussi du président Ahmadinejad. Effectivement, c'est un coup de pub d'avoir présenté ces trois femmes à des postes de ministère, alors que son entourage direct était relativement réticent. Et en termes d'image de l'Iran à l'étranger, bon, le fait qu'il y ait une femme au gouvernement, c'est quelque chose de positif. Mais cela ne signifie pas du tout que l'égalité homme-femme est acquise.
Oui, d'autant plus que cette femme en question, qui a été nommée ministre de la Santé, est gynécologue de formation et qu'elle est connue pour être particulièrement conservatrice. Hein, Denis Sifert.
Oui, ça vient contredire, mais formellement et formellement seulement, l'image que l'on donne d'Ahmadinejad dans nos régions. Alors, cette femme, je pense que ça a fait l'objet quand même de débats et de négociations très serrées. Donc, comme ça va bien être dit, deux autres ont été recalés, mais elle a obtenu un score très très important. Hein, donc, il y a eu un consensus quand même sur son nom. Et je pense que le consensus porte aussi sur l'opération de communication et sur le fait qu'effectivement, c'est une femme réputée très conservatrice. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne change évidemment rien à la réalité du pouvoir d'Ahmadinejad.
Philippe Gély voulait ajouter quelque chose.
Oui, en termes d'image à l'étranger, cette nomination est certainement contrebalancée par la nomination de ce ministre de la Défense qui est recherché par Interpol et qui quand même sera un personnage qui ne pourra pratiquement pas sortir du pays ou peut-être se rendre en Syrie, en Libye et pas tellement plus loin. Donc l'un contrebalance l'autre, je crois.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Ahmadinejad aborde la scène internationale avec une légitimité indiscutable, avec tout ce que cela implique, hein. Je rappelle qu'il doit se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU à la fin de ce mois, au moment précisément où se doit se réunir à New York le groupe de pays en charge du dossier du nucléaire iranien, Philippe Gély.
Légitimité, je ne pense pas qu'elle sorte renforcée de l'élection et de ce qui a suivi. Plutôt le contraire. Cela dit, Ahmadinejad reste un interlocuteur obligatoire de la communauté internationale. Il est maintenant à son poste de président. On va devoir faire avec. Les déclarations cette semaine de Nicolas Sarkozy sur le peuple iranien qui mérite mieux que ses dirigeants actuels montrent que sa légitimité ne sort pas grandie des épisodes des derniers mois.
Marc Eren.
Ahmadinejad est renforcé par rapport à la situation qui prévalait au lendemain des élections où une partie du peuple iranien était dans la rue. Donc il a réussi un petit peu à recoller les morceaux.
En formant ce gouvernement.
À la veille de cette négociation importante sur le nucléaire qui se tient. Cela dit, on ne peut pas tirer encore de conclusions sur le résultat de ces négociations, sur le fait que l'Iran pourrait d'une façon ou d'une autre briser le blocus international, en tout cas empêcher de nouvelles sanctions. Et je crois que sur ce plan-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des divergences de ton à l'intérieur même de la classe politique iranienne. Parce que si Ahmadinejad a réussi à faire élire ses candidats au gouvernement en utilisant le réflexe de nationaliste iranien qui est toujours très, très important face à des pressions extérieures. Je pense qu'il reste quand même plusieurs camps différents, y compris au sein du gouvernement, y compris au sein de l'appareil dirigeant iranien sur la façon de négocier sur le nucléaire. Il y a beaucoup de positions qui sont divergentes au sein même de la classe dirigeante iranienne et qui vont s'exprimer.
Denis Sifert, hein, je rappelle au passage que vous êtes au téléphone avec nous.
Oui, écoutez, pour répondre directement à votre question, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Quelle légitimité ? La légitimité morale, certainement pas. Je pense que la contestation et la façon dont se sont passées les élections, les manifestations, la répression continuent de ternir considérablement l'image d'Ahmadinejad. Mais cela dit, là, il est légitimé du point de vue de la légalité intérieure du pays et il est donc l'interlocuteur obligé. Et là, on peut s'interroger un peu sur les déclarations de Sarkozy, bon, qui on peut être d'accord sur le fond, mais en même temps, est-il utile de tenir ses propos, c'est-à-dire de remettre en cause vraiment la légalité même d'Ahmadinejad, alors que l'on sait que on va l'avoir comme interlocuteur obligé. C'est peut-être pas forcément la chose la plus habile.
Et sur le nucléaire, vous voyez la négociation se réengager comment, Denis?
Bah, c'est pas très très bien parti, mais il paraît que c'est moins qu'on puisse dire. Il paraît que l'Iran va faire de nouvelles propositions. Il paraît aussi, si j'en crois Bernard Kouchner, qu'il y a des documents qui vont être publiés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui devraient modifier un petit peu la donne. Enfin, il y a tout lieu de quand même d'être très pessimiste, et on voit quand même une tension qui ne cesse de s'accroître.
Denis vient de dire que la tension s'accroît. Vous êtes d'accord, Philippe Gelling?
Oui, moi je ne suis pas du tout optimiste sur les chances de débloquer la négociation sur le dossier nucléaire. J'ai l'impression que les dernières initiatives iraniennes étaient un mouvement assez classique à la veille d'une réunion du groupe des six qui consiste à essayer de faire bouger le curseur et dire mais ne discutez pas entre vous dans le vide puisque nous allons faire de nouvelles propositions. On n'en connaît pas vraiment la teneur, mais ce qu'on sait déjà, c'est que apparemment les Iraniens préfèrent discuter avec l'AIEA directement qu'avec le groupe des six. Côté groupe des six plutôt, le ton est plutôt à la fermeté, et je pense que un certain nombre de dirigeants occidentaux, y compris en particulier les Français, ont l'impression de s'être fait balader assez longtemps par les Iraniens et que l'heure est venue de passer à des sanctions plus sévères.
Rapidement sur le nucléaire.
Oui, je pense que la position déterminante sera celle des États-Unis. On ne la connaît pas encore. Obama a voulu jusqu'à maintenant privilégier la négociation.
La main tendue.
L'administration américaine n'a pas encore adopté un ton dur sur cette question. Il faudra attendre le prochain jour et les prochaines semaines pour savoir s'il y a des chances d'aboutir à un compromis.
Orient Presse sur RFI.
Voilà, vous écoutez Orient Presse hein, sur RFI. Nous sommes en compagnie de Philippe Gelly du quotidien Le Figaro, Marc Hered du mensuel Arabi et Denis Siffer de l'hebdomadaire Politis. Alors, autre actualité de la semaine, l'élection présidentielle en Afghanistan. Cette fois, Hamid Karzai est donné favori avec plus de 47% des suffrages contre 33 à son premier rival Abdallah Abdullah. Ce sont des chiffres provisoires qui ont été annoncés, je le précise, hier soir, hein, et qui laissent entrevoir donc la perspective d'un second tour, peut-être. Philippe Gelly, vous croyez un deuxième tour en Afghanistan ?
Hamid Karzai a bien l'intention d'y échapper. C'est assez clair. Il y a eu une rencontre assez vive avec Richard Holbrooke, l'émissaire américain, dans laquelle celui-ci l'a encouragé à faire preuve d'ouverture politique et à se montrer disposé à aller vers un deuxième tour. Apparemment, Karzai a claqué la porte et est parti. Dans son camp, on est absolument convaincu que le dépouillement final confirmera son élection dès le premier tour, qu'au fur et à mesure que le dépouillement des urnes arrivant des contrées les plus éloignées de Kaboul se poursuit, il franchira la barre des 50%. Et voilà, après il y a une commission électorale dirigée par un Canadien qui a quand même beaucoup de pouvoir et dont l'indépendance n'est mise en cause par personne, et cette commission peut invalider des résultats, voire même invalider un candidat, donc il y a encore une incertitude.
Marc Hered,
je suis absolument incapable de vous dire s'il y aura un second tour ou pas, simplement en envisageant les deux situations. Si Hamid Karzai est déclaré élu au premier tour, cela va poser des problèmes considérables au gouvernement, aux autorités afghanes et à leurs alliés occidentaux. Parce que nous aurons, en plus de l'opposition militaire des talibans et de des différents autres groupes donc islamiques, nous aurons la deuxième ethnie en importance de l'Afghanistan, donc les Pashtuns, qui vont faire bloc derrière le numéro 2,
Abdullah,
et donc qui vont entamer très sérieusement la légitimité du pouvoir afghan.
Denis Siffer, vous voyez ces élections, enfin on est à mi-chemin maintenant, comment vous voyez les choses ?
Je ne suis pas plus capable de vous dire s'il y aura un deuxième tour, mais effectivement je pense que les pays occidentaux, et les États-Unis notamment, auraient intérêt à ce qu'il y ait un deuxième tour, parce que ça légitimerait l'aspect démocratique, disons, de cette élection, alors que Karzai passe au premier tour, on risque d'avoir en effet une situation un peu à l'iranienne, précisément, qui se crée avec de très grosses contestations et une remise en cause de sa légitimité. Or, cela intervient à un moment où on distingue une sorte de désarroi un peu dans le camp occidental. Hein. On a vu des déclarations assez contradictoires aux États-Unis, en Grande-Bretagne même, sur changer de stratégie, une sorte de remise en cause, en tout cas à moyen terme, de l'opération militaire et de l'intervention de l'OTAN. Donc tout le monde a bien compris que cette situation était maintenant un bourbier et dont on voudrait se sortir. Et c'est évident qu'une élection contestée n'aidera pas à ça.
Alors Abdullah dénonce, lui, des fraudes massives. Il rejette toute idée de ralliement à Hamid Karzai. Et certains évoquent à demi-mot la possibilité que les Américains, notamment, tentent d'influer sur Karzai et son principal rival pour qu'il forme une sorte de coalition, un gouvernement d'union nationale. Vous en pensez quoi, les uns et les autres, Philippe Gély? Vous croyez que c'est possible? Que les deux hommes se réconcilient et qu'on serre les rangs?
Tout est possible, je crois. En particulier, on observe que Karzai, pendant sa campagne électorale, a ratissé très large. Il a essayé d'allier à sa cause un bon nombre de potentats locaux, de chefs de guerre, etc. Peut-il aujourd'hui tendre la main à Abdullah? Ça me paraît plus difficile aujourd'hui, après le scrutin, qu'avant. Ça serait une espèce de demi-aveu d'échec ou de façon de dire « je suis mal élu, donc j'ai besoin de vous ». Donc je ne suis pas certain que cette option soit très pratique.
Vous avez retenu Marc Ayred ?
Oui, je pense que cette option est possible, mais peu probable. Je pense que s'il y a un second tour, il serait possible d'envisager une telle solution. À ce moment-là, si vous voulez, la position, l'image des deux candidats aura été préservée et Abdullah pourrait alors se résoudre, après avoir montré sa force au premier tour, un accord avec Karzai. Si le second tour n'a pas lieu, je pense que cette possibilité est exclue.
Alors, l'opinion publique américaine est majoritairement hostile à la guerre en Afghanistan, on l'a vu d'après les derniers chiffres, idem d'ailleurs en Grande-Bretagne, alors que sur le terrain, les talibans, tout comme l'hostilité à la présence militaire occidentale, montent en puissance depuis ces derniers mois. Alors, que vous inspire cette élection présidentielle, quelle que soit son issue, j'allais dire, face à cette montée en puissance des talibans qui engrangent, semble-t-il, des succès régulièrement, Denis Sieffert?
Quoi qu'il en soit, les Occidentaux, l'OTAN et les États-Unis ont intérêt à ce que l'élu, quel qu'il soit, ce sera vraisemblablement Karzai, soit légitime, ne soit pas contesté. C'est évidemment la condition première pour qu'on puisse envisager à terme un retrait des troupes de l'OTAN. Parce que, effectivement, il y a un début de désarroi qui se manifeste. Il y a eu énormément de bavures, encore une très très récemment, vendredi, avec de nombreux, plus d'un millier de civils qui ont été tués par les bombardements occidentaux depuis le début de l'année, et les opinions publiques aux États-Unis comme en Grande-Bretagne se sont retournées maintenant, et donc on a un homme comme Robert Gates qui dit il faut changer de stratégie. Sarkozy emboîte le pas en disant il faut en effet changer de stratégie, c'est-à-dire que le plus tôt possible créer les conditions pour que les Afghans se gouvernent seuls. Bon, c'est un discours qui n'est pas nouveau, mais là on le sent beaucoup plus pressant sous la pression des opinions publiques, et effectivement les élections sont un élément très important pour envisager la suite de cet engagement occidental.
Voilà, alors troisième thème de l'actualité de la semaine dans la région, les derniers développements dans le conflit israélo-palestinien. Barack Obama a dû reculer, hein, on l'a vu, devant l'intransigeance israélienne sur la poursuite de la colonisation dans les territoires occupés, colonisation qui s'est même accélérée ces derniers mois. Ce matin, Benjamin Netanyahou a laissé entendre que cette colonisation allait s'étendre et s'intensifier avant toute mise en œuvre d'un gel possible. Alors la perspective d'une reprise du processus de paix semble s'être encore éloignée, hein, Philippe Gély?
Je pense que les Américains sont focalisés sur une reprise du dialogue qui, en l'état actuel des rapports de force, risque d'être assez formel. Ils ont baissé leurs exigences, en effet, vis-à-vis d'Israël sur la question de la colonisation, puisque manifestement ils se contenteraient d'un moratoire et n'exigeraient plus un gel total. On peut faire confiance à Netanyahou et à sa connaissance de la politique intérieure américaine et des rapports de force aux États-Unis pour jouer de toutes les subtilités et obtenir ce qu'il veut dans ce domaine. Le problème pour Obama ne va pas tarder à devenir une espèce de... Enfin, c'est un problème de politique étrangère, mais qui a des dimensions intérieures. Il y a un côté déjà vu dans la posture de l'administration américaine. On nomme un émissaire spécial, il est plein de bonne volonté, mais il ne fait pas bouger le curseur pratiquement, du côté israélien en tout cas. On va se réunir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Qu'est-ce qui peut en sortir ? Mahmoud Abbas est tellement affaibli qu'il ne peut probablement pas se soustraire à ce que voudraient lui faire accepter les Américains s'il décide de se contenter d'un certain nombre de gestes plus ou moins superficiels des Israéliens. Tout ça a un air de déjà-vu, c'est assez peu prometteur pour un résultat tangible et la promesse qui avait été faite d'une solution définitive au conflit israélo-palestinien.
Vous pensez la même chose, Marc Yarrel?
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. J'ajouterais qu'au niveau des opinions publiques, la tension risque de monter fortement. Il faut remarquer que depuis l'arrivée d'Obama... Et depuis que donc son nouveau discours a laissé penser à la plupart des partis en présence que la colonisation serait réduite ou en tout cas stoppée et que des négociations sérieuses pourraient s'engager pour l'établissement d'un État palestinien viable, les attentats ont cessé. La situation politico-militaire s'est brusquement détendue. Il faut s'attendre à ce que, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, sauf pression accrue occidentale aboutissant à un gel véritable de la colonisation, il faut s'attendre à ce que la situation empire considérablement, et dans les territoires occupés, et peut-être même au sud du Liban.
Denis Seffer ?
Il faut rendre justice à Obama sur au moins une chose, c'est que pour la première fois peut-être et par son choix personnel, son engagement personnel, la question de la colonisation, dont je pense que c'est le cœur du problème dans ce conflit, a été mis au centre du débat international. C'est-à-dire qu'on parle maintenant de la colonisation et c'est devenu de façon publique, disons, l'obstacle à la réalisation de la paix et d'un État palestinien. Alors, la promesse était d'autant plus forte, et la déception risque d'être grande, si il n'y a pas en face de ce nouveau vocabulaire et de ce nouveau discours la fermeté qui permettrait, en effet, d'imposer le gel de la colonisation à Israël. Or, ça n'en prend pas le chemin, puisqu'en effet, on est plutôt là sur une position de moratoire pour 9 mois seulement, et après... que Israël a cru, c'est-à-dire pris en fait de l'avance sur son plan de développement de la colonisation, ce qui est un peu un jeu à somme nulle du point de vue des projets de colonisation israéliens.
On nous a annoncé il y a quelques jours que Barack Obama pourrait présenter un plan précis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU pour le conflit israélo-palestinien. Quelle pourrait être cette annonce, selon vous, Philippe Gelly ?
On n'en connaît pas le contenu, mais je pense qu'on est très loin. Ça serait un saut qualitatif énorme, partant du point où nous sommes aujourd'hui, de présenter un plan de paix global dans 3 semaines, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ça pourrait être un plan théorique tout à fait séduisant. On a coutume de dire dans la région que tout le monde sait comment aller de A à Z, mais personne ne sait comment aller de A à B. Et donc on en est là, on est toujours entre A et B. Que Obama, est-ce qu'il est assez naïf pour se risquer à cet exercice et mettre sur la table un plan ? Il faut d'abord préparer le terrain un minimum, je pense. Donc, je ne crois pas qu'on soit si près d'un plan de paix globale.
Marc Yarrel, sur ce plan annoncé
Depuis quelques semaines et même depuis quelques mois, on connaît quelques grandes lignes de ce plan qui consistent à des petits pas, donc avec l'objectif clairement affirmé d'aboutir à un État palestinien viable, et à une paix définitive entre cet État et l'État d'Israël, sécurité mutuelle. Des petits pas. Des avancées diplomatiques, politiques sur le terrain. Les pays arabes voisins, les Palestiniens adoptent telle attitude, telle ouverture avec Israël, des échanges, des voyageurs, de tourisme, etc. Mais je suis d'accord avec mon confrère pour dire que si Barack Obama ne parvient pas à obtenir d'Israël un gel de la colonisation, tout cela paraît un peu fumeux.
Oui, Philippe Gély, vous vouliez ajouter quelque chose.
Il est aussi question d'un éventuel voyage d'Obama à Jérusalem, et ça serait manifestement un événement assez important pour voir si lui, ce grand communicateur, arrive dans cette région à
débloquer la situation.
Oui, à faire bouger l'opinion, à convaincre. Il faut bien aussi mesurer que sa cote de popularité auprès des Israéliens est tombée à 4%. Ce qui c'est du jamais
c'est
vu.
Du jamais vu oui.
Donc les Israéliens sont absolument convaincus qu'Obama n'est pas de leur côté, et une visite à Jérusalem ou en Israël et dans les territoires pourrait peut-être modifier un peu la donne.
Marc Arène.
Tout à fait d'accord. S'il n'y a pas d'électrochoc, nous allons vers une situation qui va empirer.
Vous êtes d'accord, Denis Sefer?
Plus généralement, d'ailleurs, les mots négociation et processus de paix font presque peur maintenant, parce qu'on ne sait plus très bien ce que les Palestiniens pourraient donner en échange de quoi que ce soit, et on ne sait plus très bien, disons, à quoi conduirait un processus de nouveau long, lent, avec la possibilité dont Netanyahou sait très bien jouer, de gagner du temps, de reprendre la colonisation, etc. Alors, ce n'est plus tellement les Palestiniens qui sont maintenant dans ce jeu, mais l'ensemble des pays arabes et de la Ligue arabe, et je pense que le seul plan de paix, c'est celui qui avait été mis sur la table par la Ligue arabe, c'est-à-dire en effet, avec en échange la reconnaissance d'Israël et le retour à des relations diplomatiques et commerciales avec l'ensemble des pays arabes.
Oui, en échange de l'évacuation de tous les territoires occupés en 1967.
Hein. Mais ça suppose en effet une pression américaine dont on a l'impression que Obama n'a pas les moyens pour l'instant.
Voilà, ainsi s'achève Orient Press. Merci à vous trois, messieurs. Philippe Gély du Figaro, Marc Ayrault d'Arabie et Denis Sefer de Politis. Merci à Jean Legrand pour la réalisation, à Clément Atlan pour la technique. Prochain rendez-vous avec Orient Press samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI.